Donc l'évangile de Matthieu au chapitre 1, nous allons pendant peut-être 2-3 semaines bien mettre un Thessalonicien de côté et puis nous intéresser au récit de la venue de Christ, la première venue de Christ. Donc Matthieu chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu chapitre 1, verset 18, il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et il s'agit d'Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le fait que Jésus soit né, qu'il soit venu, est indéniable, personne ne peut dire le contraire. Même l'historien Joseph, qui n'était pas forcément un disciple de Christ, mais qui a été fidèlement retranscrit l'histoire d'Israël à l'époque, eh bien lui-même fait mention de Jésus et de ses miracles. Donc il n'y avait pas seulement le témoignage des disciples, il y avait aussi le témoignage des ennemis de Jésus, ceux qui l'ont crucifié. Et il y a le témoignage de l'historien Joseph. Mais la question c'est, oui, des enfants, des bébés naissent tous les jours, depuis, et puis encore les jours à venir. Moi-même j'attends un petit-fils là, d'un moment à l'autre. Des bébés naissent. Mais quelle est la différence entre ce bébé-là et ceux qui sont nés avant lui ou après lui? Il y a un premier indice, et on ne va pas s'attarder là longtemps ce matin, mais un premier indice, c'est les circonstances de sa naissance. Il est né d'une vierge. Déjà là, ça le distingue de tous les autres. Mais ce que nous voulons voir surtout, ce qui nous intéresse ce matin, nous allons voir les noms de Jésus, les noms qui lui sont donnés ici dans ce passage seulement. Parce que c'était vrai qu'il y avait les conditions de sa naissance, elles étaient particulières. L'ange a beaucoup insisté sur les noms, de tous les détails, la couleur des vêtements, le menu, le régime pour... Jean-Baptiste, quand il est né, il y avait un régime particulier, mais pour Jésus, non, il n'y a pas de régime particulier qui a été imposé. Mais il y a des noms qui ont été imposés. Pour Dieu, c'était ça le plus important, c'était qu'il reçoive deux noms en particulier qui sont mentionnés ici. Dans le reste de la Bible, on peut trouver beaucoup d'autres noms descriptifs de Jésus, mais ici, à sa naissance, deux noms particuliers. Vous les avez notés. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et le deuxième nom, c'est Jésus, son nom humain, son nom terrestre, Jésus, qui veut dire le Sauveur. Donc nous allons prendre un à la fois. On va commencer avec Emmanuel. Vous savez, la naissance de Jésus, eh bien, il y a eu toutes sortes de représentations artistiques, musicales, cinématographiques, théâtrales, toutes sortes de manières à ce qu'on a essayé de représenter la naissance de Christ. Et ces représentations transmettent les détails, un peu l'imagination de la personne aussi, hein, mais les détails de sa naissance, sa venue, ce qui est physique, mais ce qu'ils ne peuvent pas transmettre, et c'est le sens des noms de Jésus, ce que représentent les noms de Jésus. Ils peuvent nous donner ces noms, mais on est obligé, c'est là, il n'y a que dans la parole de Dieu qu'on comprend pourquoi ces noms. Alors ici déjà, pour le nom d'Emmanuel, c'est prophétique. C'était déjà le nom qui a été donné par Ésaïe le prophète, qui dans un premier temps annonçait la naissance de son propre enfant, mais qui aussi, dans un deuxième temps, annonçait la naissance du Messie. Et dans Ésaïe chapitre 7, il nous dit, dans cette révélation, il nous dit, voici la vierge ou la jeune fille, et pour eux, à l'époque, les jeunes filles étaient toutes vierges, ou devaient l'être, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et on lui donnera ce nom, Emmanuel. Il le recevra, c'est un nom, et comme beaucoup des noms que Dieu a donnés, c'était toujours des noms qui avaient un sens, et qui annonçaient un accomplissement. Donc le fils aîné de Marie, hein, parce que, contrairement à peut-être ce qui peut être enseigné par ailleurs, mais c'était le premier fils, hein, c'était son fils aîné. Jésus avait des, comment on dit en français, des demi-frères, mais des enfants nés de Joseph et Marie. Et les noms sont dans l'Écriture. Mais le premier-né est uniquement le fils de Marie. Il est né dans une étable, parce que c'était là les circonstances. Certainement que si Joseph et Marie avaient plus d'argent, on aurait trouvé une place pour eux. Mais comme ils étaient des gens de humbles, eh bien, on leur a donné ce qui restait. Peut-être qu'il est né dans une étable, mais ça n'empêchait pas que Jésus, ce bébé, en fait, représentait Dieu avec nous. La déité de Christ. Et là, elle est annoncée dans ce nom. Le Saint-Esprit est mentionné, hein, l'intervention du Saint-Esprit est mentionnée dans la naissance de Christ, pas seulement pour que ce soit le miracle puisse se réaliser, pour que une vierge puisse devenir enceinte d'un garçon, bien sûr qu'il fallait l'intervention de l'Esprit-Saint, mais aussi il y avait l'intervention de l'Esprit-Saint justement pour lui transmettre cette divinité, cette déité. Il ne l'a pas reçue de sa mère. Elle n'avait pas de divinité, elle n'avait pas de déité, malgré ce qu'on puisse dire, et on appelle ça l'Immaculée Conception de la Vierge, mais elle n'est pas née sans péché, elle n'a pas pu transmettre à Christ son état de pureté, ni surtout pas sa divinité. Hein, donc, il l'a reçu du Saint-Esprit, et pour cela, il a pu être et homme et Dieu en même temps. Donc, Jésus a trouvé, Dieu a trouvé simple de dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est-à-dire un enfant physiquement présent qui vit, qui va parler, qui va marcher, qui va manger, qui va dormir, qui va. Et tout comme un être humain. Il vivra toutes les limitations de l'être humain. Et en même temps, ce sera Dieu enveloppé dans un corps humain. Et l'apôtre Jean le dira dans l'évangile de Jean, hein, chapitre 1, il le dira, il dira « Au commencement était la parole », donc parlant de la création. « La parole était avec Dieu », bien sûr, parce que quand il a créé, il a dit. Hein, donc la parole a créé, la parole était avec Dieu déjà. Et il dit « La parole était Dieu », c'est-à-dire la parole de Dieu est aussi... Elle représente, elle est la personne de Dieu. Là où la parole de Dieu parle, toute la puissance de Dieu est là. Elle a en elle le pouvoir d'exécuter la parole de Dieu. Et il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis il ajoute au verset 14, « La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc cette parole, eh bien, elle a été incarnée, elle a été enveloppée d'un corps humain. Et cela pour nous parler. Donc, ce bébé qui est né dans l'étable, eh bien, c'était l'incarnation de la parole de Dieu. L'incarnation de Dieu. L'incarnation en lui était toute la puissance de Dieu. Et cette divinité, ou cette déité de Christ, a été reconnue. Et je ne vais pas... C'est dans le chapitre 2 de Matthieu, hein, vous pourrez le lire, et peut-être on le soulignera plus tard, mais lorsque les mages sont venus d'Orient, ils sont venus, et il nous dit qu'ils se sont prosternés, et bien certainement, parce que pour eux, ils ont reconnu le roi des Juifs qui vient de naître, et donc c'est normal qu'ils se prosternent, c'était les coutumes de l'époque. Mais il nous dit pas seulement qu'ils se sont prosternés, mais il nous dit au verset 11, et qu'ils l'ont adoré. Ils ont adoré l'enfant. Il dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et pas les adorèrent, c'est pas la mère et l'enfant, mais ils ont vu l'enfant et ils l'adorèrent. Ils adorèrent l'enfant seulement. On se prosterne devant un roi et on adore Dieu. Hein? Donc la question pour nous ce matin, c'est mais qui est Jésus pour moi? Qui est cet enfant pour moi? C'est le bébé Jésus, mignon? Ou est-ce que c'est vraiment Dieu parmi nous? Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que toute la Bible nous parle de comment Dieu veut être parmi les hommes. C'est extraordinaire et ça reste un mystère, mais il y a un lien. Dieu était là avec les hommes à la création, et ensuite il y a eu la chute, le péché, et l'homme a fui et s'est caché dans le jardin, mais Dieu par sa parole était présent. Il a dit: Adam, où es-tu? La parole, Dieu le cherche. Et Dieu était présent avec les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Dieu était présent avec eux. Il lui parlait. Dieu était présent avec les enfants d'Israël, déjà sur le mont Sinaï. Il est descendu, il a parlé au peuple. Ils n'ont pas vu une figure, mais ils ont entendu la parole de leurs propres yeux. Ensuite, symboliquement, on a construit un tabernacle au centre du camp qui représentait la présence de Dieu, pas en dehors du camp, mais dans le camp. C'est là où Dieu voulait être, au centre du camp. Et puis après, les tribus se sont réparties autour. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est encore le message, c'est Dieu avec nous. Il veut être au milieu de nous. Et dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, il appelle l'Église le temple de Dieu. C'est toujours Dieu qui veut être parmi nous. Il parle même de notre corps, le temple du Saint-Esprit. C'est cette présence. Et Dieu, finalement, il fait, et ce sacrifice qu'il paye, tout cela, c'est rien que pour être avec nous. Il désire. Le message fort de la parole, c'est que Dieu veut être avec nous plus que nous voulons être avec lui. Nous aimons avoir Dieu quelque part, et puis on va le trouver quand on a besoin de lui. C'est une bonne adresse à avoir dans la poche. Mais pour Dieu, il veut être au milieu de nous. Il veut faire partie de ma vie. Il veut être au centre de ma vie. C'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je projette, tout ça, il est là. Je le consulte. Je cherche son intérêt. Je cherche son bien. Les gens font ça pour leur chat ou leur petit chien. Ils prévoient, ils font des projets et ils tiennent compte de ce petit animal. Mais combien plus on devrait le faire pour Dieu qui est présent. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas physiquement présent qu'il n'est pas présent. Et donc ce cadeau dans cet emballage... Et parfois, vous savez, quand vous recevez les cadeaux, bien sûr, l'emballage, c'est la première impression qu'on a. Si quelqu'un vous servait votre cadeau sous le sapin, il était emballé dans du journal ou dans du papier qui a déjà servi à autre chose, ce ne serait pas très intéressant. Alors déjà, il y a du beau papier, avec des rubans, avec des petites étoiles et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a vite fait de déchirer tout cela et on va voir ce qu'il y a dans l'emballage. C'est ça qui intéresse surtout. Avant la fin de la journée, les enfants, tout le papier, tout l'emballage qui était si joli, et il est à la poubelle et on garde ce qu'il y a. Mais avec Jésus aussi, n'oublions pas, l'emballage n'est pas le plus important. C'est qui il est. Dieu incarné. Premier nom qui a été donné à Jésus, qui a été annoncé par le prophète et qui a été rappelé par l'ange, il dit, tu l'appelleras Emmanuel. Et ensuite, il lui dit, et tu lui donneras aussi le nom de Jésus. C'est comme ça que les gens l'appelleront, ce nom humain, tu l'appelleras Jésus. C'est le nom que Dieu donne à Joseph, le père adoptif de Jésus. Il lui dit, tu l'appelleras Jésus. Et déjà, quand nous lisons cela, nous voyons que déjà, Joseph était un peu gêné par le fait que Marie soit enceinte, parce qu'il savait que ce n'était pas lui le père, et pourtant il l'aimait, et il ne cherchait pas à l'embarrasser ou à faire un scandale, alors il essaye de faire ça discrètement, et il est en train de penser au bien de Marie pour faire ça discrètement, pour que ça ne soit pas trop un scandale, mais... Et justement, l'ange vient et lui dit, non, tu prendras et tu prétendras être le père de cet enfant. Alors, tu prendras soin de lui, tu l'élèveras comme un père, tu l'adopteras. Mais il dit, il n'y a pas de problème, Marie a été fidèle, l'enfant qu'elle porte, c'est le Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Il dit, elle va avoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il faut comprendre que le nom Jésus était un nom courant. Hein. à l'époque, parce que Jésus, c'était Josué, c'est le même mot. Ben, Josué, c'était un grand héros de l'histoire d'Israël. Donc c'était un nom qu'on donnait assez facilement à ses enfants. Josué, comme on donnait le nom de David, on donnait le nom de Moïse, on donnait le nom de Saül, Abraham, c'était les grands noms. Alors Josué, c'était... Alors que tu lui donneras le nom de Josué, bon, ben, son père ne s'appelle pas Josué, mais bon, c'est pas grave, mais c'était un nom honorable. Mais ce n'est pas pour cela qu'il lui donne le nom de Josué. Il dit, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le sens que ça a. C'est pas en commémoration d'un grand héros qui vous a fait entrer dans le pays de Canaan, mais c'est parce qu'il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, cet enfant qui naît à Bethléem, eh bien, c'est un personnage clé dans le plan de Dieu. Il sauvera son peuple. Et alors quand les enfants d'Israël entendaient le fait que Dieu sauve, alors là, ça rappelait beaucoup de prophéties. Hein, que Dieu va sauver, et Dieu est appelé le sauveur. Et puis justement, eux se trouvaient dans une situation, ils avaient besoin d'un sauveur. Les Romains étaient là, ils les opprimaient, et ils avaient besoin d'être délivrés. Et donc le message est bien reçu, et quand Jésus naîtra, eh bien ce sera sans discussion, il sera appelé Jésus. Si nous regardons quelques passages dans l'Ancien Testament, mais bon déjà, regardons... Marie, dans son chant, après la naissance de... Quand elle sait qu'elle est enceinte, donc dans Luc chapitre 1, verset 47, hein, l'ange Gabriel lui a dit qu'elle serait enceinte. Et ensuite, bien sûr, elle constate qu'elle est enceinte et elle rencontre Élisabeth, sa parente, et qui est aussi enceinte. Mais il nous dit dans ce chant, le chant de Marie, donc au verset 47, Luc 1, 47, elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc c'est un concept, c'est une aspiration, c'est quelque chose qui était dans le cœur de tous les Juifs. C'est Dieu le sauveur et qui va délivrer. Et elle reconnaît que déjà, en tant que juive, elle a besoin d'un sauveur, mais en plus, elle reconnaît que c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Dieu. Et c'est ce que nous allons voir là, rapidement, à travers quelques versets. On voit que la Bible ne fait pas de distinction entre Dieu sauveur, Jésus sauveur. Et alors qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Vous êtes dans Luc chapitre 1, regardez dans Luc chapitre 2, et au verset 11... C'est le message des anges aux bergers, et certainement que nous reviendrons dessus sur cela. Mais au chapitre 2, verset 11, il nous dit c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Bon, après, les bergers, je ne sais pas comment ils l'ont compris tout de suite, mais le sauveur, le Christ, le Seigneur, c'est des mots qui vont aller ensemble, qui vont ensemble dans l'esprit de tous ceux qui ont été élevés dans le judaïsme. Et pour eux, c'est un concept clair, c'est pas un problème. La question, c'est qui? Qui est ce sauveur? Et il dit, eh ben, celui qui vient de naître, et ils vont leur donner quelques indications pour qu'ils puissent aller vérifier cela. Et il dit, il est dans une étable. À Bethléem, il n'y avait pas 36 étables, il y avait une hôtellerie. Et donc, cette hôtellerie avait une étable. Il n'y a pas moyen de se tromper. Ils ont dit qu'il est allé dans l'étable et il est emmailloté et couché dans une crèche. C'était le seul. Et ils l'ont trouvé. Et ils ont trouvé que, qu'en partant, il nous dit que les bergers se retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui était annoncé. Donc, ils ont vérifié ce qu'ils ont pu vérifier, que l'enfant était réellement dans l'étable, dans une crèche, et cela correspondait. Donc, tout le reste du message était vrai, hein, que celui-ci était le sauveur. Et il venait de naître. Peut-être que par la suite, eh bien, il n'a pas correspondu aux attentes du peuple juif. Eux, quand ils pensaient sauveur, c'est quelqu'un qui va venir, qui va non seulement chasser les Romains, mais rétablir le royaume de David. Et puis leur faire d'eux la principale nation du monde. Alors, quand Jésus est venu, c'était un peu faible. Son armée, c'était pas grand monde. Et puis, surtout, c'était pas sa méthode. Et ils ont été déçus. Et à tel point, vous savez, l'être humain est tel que lorsqu'il a des grandes attentes et que finalement ça ne se réalise pas, non seulement. Dans sa déception, en plus, il détruit. Hein. Vous voyez un beau fruit, ah, vous dites ça va être bon. Vous prenez, vous mangez, c'est acide. Qu'est-ce que vous faites? Oh, tant pis, non, on le jette. Ah, mauvaise. Quand on est déçu, on est en plus. Plus dur. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils croyaient que c'était. Après, quand ils l'ont goûté, c'était pas ce qu'on prévoyait. Et ils l'ont crucifié. Hein? Alors, il y en a. Ils étaient plus gentils que d'autres. Certains l'ont boudé. On dit, bon, si personne, c'est n'importe quoi. Certains l'ont ignoré. Certains sont fâchés, d'autres l'ont rejeté et certains l'ont même tué. Mais vous savez, c'est un peu ce que les gens font encore aujourd'hui. Hein. Jésus, tel que la Bible nous le présente, ne correspond pas à ce que les hommes recherchent. Ils cherchent quelqu'un qui va venir intervenir dans leur vie et tout d'un coup, ils ne seront plus jamais malades, ils auront le succès, ils auront de l'argent, ils auront ceci. Et en présentant un Jésus tel... Eh bien, on arrive à attirer du monde. Mais, et l'homme a cette possibilité, l'être humain a la possibilité de, finalement, rejeter le Christ. Mais ce n'est pas parce qu'on le rejette ou parce qu'on l'ignore qu'on ne sera pas confronté à lui un jour. Hein? Soit on le rencontrera pour l'adorer, soit on le rencontrera pour être condamné. Mais tout le monde rencontrera Jésus. On ne peut pas... Hein, c'est pas parce qu'on dit il n'existe pas ou ça c'est rien du tout que c'est pour ça que ça n'arrive pas. Dans Actes chapitre 13, verset 23, Actes 13. Verset 23. Pierre est en train de parler. C'est Saul qui est en train de parler. Et il parle de Jésus, verset 23. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc c'était Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ça c'est une déclaration et Saul qui était un homme qui était ancré dans le judaïsme et mais qui a en fait rencontré Jésus glorieux. Eh bien, maintenant on peut faire cette déclaration que Dieu a suscité ce sauveur qui est Jésus. Jésus, quand il s'est présenté à la femme samaritaine, et puis alors après elle a été transformée, elle est allée en ville dire aux gens, venez écouter l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les hommes sont sortis, et après 2 jours avec lui, ils font cette déclaration, nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jean 4 et verset 42. Après avoir écouté, pas seulement sur le témoignage de la femme, mais après l'avoir écouté, ça vient par révélation. Ils ont écouté la parole et ils ont dit, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Paul dira à Tite, dans la petite épître à Tite, Tite qui était un évêque établi par Paul sur plusieurs églises. Et dans Tite, le chapitre 1, les versets 3 et 4, c'est intéressant comment il dit cela. Au verset 3, il dit « Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Alors, vous voyez, Dieu notre Sauveur. Verset 4 dit « À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Donc vous avez Dieu le Sauveur, Jésus le Sauveur, Jésus est Dieu le Sauveur. Déjà on pourrait faire un argument, montrer la divinité de Christ, hein, pas, contrairement à ce que certains peuvent enseigner. Mais aussi, il nous présente Dieu Sauveur, Jésus Sauveur. Et c'est un thème que nous trouvons tout le long dans la parole de Dieu. Si nous regardons aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, Éphésiens 5 et verset 23, même si c'est le chapitre qui parle du mariage, la relation entre le mari et l'épouse, et il nous dit quand même, verset 23, il dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Il dit, le mari, où est-ce qu'il va s'inspirer pour savoir comment il doit se comporter vis-à-vis de son épouse ? Eh bien, c'est en regardant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans quel rôle ? Jésus-Christ, sauveur. Celui qui intervient pour aider. Certains ont mal lu le passage. Ils ont pensé, oui, comme Jésus, le maître. Non, c'est Jésus, le sauveur. Celui qui délivre, celui qui intervient. Et... dans Philippiens chapitre 3 et verset 20, eh bien nous savons cet aspect final du ministère de Christ. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus sauveur, c'est pas seulement sauveur de mes péchés, ce qui est déjà extraordinaire, mais Jésus est sauveur dans ma vie, chrétienne, et Jésus est sauveur pour ce qui est de mon avenir, hein, de nous amener. Donc, dans le sens de, quand il dit que Jésus est sauveur, c'est celui qui me prend depuis le moment où il me trouve dans mon péché jusqu'au moment où il me mène dans la gloire. Et Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi ? Pour que un jour vous soyez là où je suis. Moi, je suis venu là où vous êtes. Mais un jour, vous serez là où je suis. Ça, c'est le programme de Dieu. Et c'est ça, c'est inclus dans le mot « sauveur ». Hein? Quelqu'un en train de se noyer, on le sort de l'eau et on le met sur la plage et il respire, on dit « Ah, monsieur, vous m'avez sauvé ». Et alors l'autre, il s'en va, il le laisse là. Ah non, il n'a pas sauvé. S'il l'a sauvé, Le sauver, c'est-à-dire qu'il l'a sorti de l'eau, il l'a récupéré, et il l'emmène jusqu'à les soins qu'il lui faut, et après il l'emmène jusqu'à la maison, il le met dans son lit, confortablement. C'est ça, sauver. C'est du va jusqu'au bout où il peut, à partir de là, continuer. C'est pas seulement tirer de l'eau, mais c'est après pour qu'il puisse partir, continuer sa vie. Et c'est là où Dieu est complet dans son programme. Il vient et nous récupère là où nous sommes. Il me prend dans l'état où je suis. Et puis après, il m'accompagne pendant ma vie, de tous les jours. Et il m'accompagne jusqu'à dans les lieux célestes. C'est ça, tout ça, c'est inclus dans Jésus, le Sauveur. Donc, ne croyons pas que Jésus, quand je parle de Jésus, mon Sauveur, c'est pas seulement de, je parle du jour où je suis venu à Christ, où j'ai prié et il m'a sauvé de mes péchés. Ça ne s'est pas arrêté là. Il est mon Sauveur aujourd'hui, il est mon Sauveur demain, et il est mon Sauveur jusqu'à la fin. C'est quand les anges sont venus au berger, on dit « Il vous est né un sauveur. » Il vous est né un sauveur. Eh bien, celui qui va vous accompagner tout le long jusqu'à la fin. Nous devons être reconnaissants et nous souvenir de cela. Et en ces temps de fête, il est tellement facile d'être distrait par tout ce qui se passe, eh bien, restons fixés sur le sens que à Noël, c'est pas fixé sur le 25 décembre, mais fixé sur la naissance de Christ, la venue de Christ. Il nous est né Jésus, le Sauveur, et il est né Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. Alors, qui est Jésus pour moi aujourd'hui? Eh bien, est-ce qu'il est Emmanuel, Dieu avec moi, donc je ne craindrai rien? Et est-ce qu'il est le Sauveur, c'est-à-dire il m'accompagne jusqu'au bout? Je lui fais confiance et je le suis. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour le message de cette venue. Te remercions pour le rappel. Ce matin, nous n'avons rien dit que nous ne connaissions pas déjà, mais nous avons besoin d'être rappelés de cela. Et puis toute cette information, eh bien, nous engage vis-à-vis de toi à vivre autrement. Aide-nous, nous te prions, Seigneur, tu connais chacun. Et que ce soit vrai pour chacun d'entre nous, que tu n'es pas seulement Dieu parmi les hommes, mais que tu es Dieu avec nous, que tu n'es pas seulement un sauveur, mais que tu es notre sauveur, et que ce soit une réalité que nous vivons chaque jour. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je propose un cantique. Le 94. Terre, chante de joie. Celui que Dieu t'envoie, le Christ est né. 94.
Terre, chante de joie. Chaîne. charité. Cette crèche est un temple où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur une croix. Avec à ton école, loin